Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Aujourd'hui, notre invité, Simon Labrecque, adjoint au secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, et nous allons surtout aborder aujourd'hui le message du 1er mai qui s'adresse aux travailleuses et aux travailleurs, et c'est une tradition pour les évêques du Québec. Simon Labrecque, bienvenue à Question d'aujourd'hui.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Alors Simon, ça fait très longtemps que les évêques du Québec, depuis 1974, publient un message du 1er mai. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir ce message du 1er mai?
Oui, donc depuis 1974, les évêques du Québec et les évêques du Canada, depuis 1956, publient un message pour la fête des travailleuses et des travailleurs, donc le 1er mai. C'est également la fête de Saint-Joseph ouvrier ou de Saint-Joseph travailleur. Donc le message, en fait, vise à interpeller les chrétiens et les chrétiennes pour promouvoir la justice sociale, promouvoir les droits des personnes, avec une attention particulière à la question du travail, à la question de l'économie, et puis à la question des conditions de vie des personnes qui travaillent.
Alors, ce message du 1er mai, Simon Labrecque, il y a différents thèmes depuis 1956, qui était publié par les évêques du Canada, mais depuis 1974, par les évêques du Québec. Et quels ont été les derniers thèmes qui ont été abordés par ce message du 1er mai?
Oui, ben dans les thèmes marquants peut-être là, des 30 dernières années, en 1995, à l'époque de la marche du pain et des roses, il y a eu un message sur la pauvreté des femmes en particulier, donc une attention particulière à la pauvreté des femmes. En l'an 2000, il était question d'élimination de la pauvreté. Donc, qui est un grand projet de société qui a mené à une loi du gouvernement provincial sur l'élimination de la pauvreté au Québec. Ensuite, il y a eu plusieurs messages là sur la situation des travailleurs en difficulté, les personnes au chômage, les travailleurs migrants également, la question de l'arrivée du numérique, l'électronique, comment ça change le travail, comment ça change nos vies, et la question de l'environnement aussi, qui est liée de près à la question du travail, à la question de nos façons d'habiter le territoire.
Comment vous abordez ces questions? Qui est derrière ce message? Qui est sollicité pour penser ce message, penser à la thématique, penser à quels sont les éléments importants à mettre dans le message?
Donc, tout d'abord, le message est produit par le Conseil Église et Société, donc qui est un conseil de l'Assemblée des évêques qui réunit 3 évêques et au moins 4 personnes laïques qui sont choisies en fonction de leur engagement. Et puis, il y a moi, donc, qui est secrétaire du conseil, qui est employé de l'Assemblée des évêques. Et puis, on collabore toujours avec des responsables dans les diocèses, responsables de pastorale sociale, pastorale de l'environnement, pastorale interculturel, par exemple. Et puis, on essaie également d'être en lien toujours avec des mouvements sociaux. Si je prends par exemple l'exemple du message du 1er mai 2019, c'était en appui à une campagne qui s'appelait la campagne 5-10-15, qui était menée par le collectif pour un Québec sans pauvreté, si je me souviens bien, sur le nombre de congés payés, le nombre de jours d'avis qu'on reçoit par rapport à notre horaire de travail et puis le salaire minimum qu'on souhaitait à l'époque en 2019 à $15 de l'heure. Donc, le message du 1er mai avait été conçu en collaboration et en appui à cette campagne-là. C'est toujours quelque chose qu'on recherche, c'est-à-dire de s'allier à des mouvements sociaux, à des personnes qui travaillent pour un monde plus juste, pour le respect des droits de la personne également, dans la société. Et puis on encourage donc les catholiques, les chrétiennes, les chrétiens à se joindre à ces mouvements-là, à les appuyer à notre façon. Et il y a une perspective également chrétienne, donc on s'intéresse aux enseignements sociaux de l'Église, à ce que par exemple les papes ont pu dire, à ce que des groupes catholiques, des différentes coalitions, différents mouvements ont pu écrire sur les enjeux sociaux. Puis on essaie de tout mettre ça ensemble dans des messages à la fois interpellants, des messages bien documentés et qui sont faciles à s'approprier dans les milieux également.
Simon Labrecque, donc ce lien avec les travailleuses et les travailleurs, Donc, il est important, vous le faites à travers les mouvements sociaux pour penser la thématique, penser le message.
Oui, c'est un lien qu'on fait. Et puis, le rôle des conseils de l'Assemblée des évêques, c'est de proposer des orientations, des prises de parole aux évêques. Donc, on essaie d'être toujours à l'écoute de ce qui vient du terrain, donc des préoccupations concrètes des travailleurs, des travailleuses qui remontent de différentes façons là, dans nos instances, là, à partir des paroisses, à partir des différents groupes chrétiens engagés également sur le terrain.
Donc, cette thématique que vous choisissez chaque année, comment elle vous parvient? Est-ce que c'est à partir des préoccupations que vous pouvez voir sur le terrain? Est-ce que c'est aussi des questions qui sont portées par les différents chrétiens, chrétiennes engagés en Église?
Oui, exactement. Pour le cas de cette année, par exemple, le message porte sur la situation des travailleurs migrants au sens large du terme. Et puis, c'est une préoccupation qui a émergé au cours d'un événement où le Conseil Église et Société s'est réuni avec ses groupes partenaires, donc la table de pastoral sociale des diocèses du Québec, la table interdiocésaine des communications, donc les responsables des communications dans les 18 diocèses québécois, et puis le réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes, qui existe depuis le début des années 80, qui se soucie plus particulièrement donc de la condition des femmes à la fois dans l'Église et dans la société. Et au mois d'août 2024, donc, on a organisé un événement à Trois-Rivières sur le thème « Prendre soin », sur comment, en tant que chrétienne et chrétien, on prend soin les uns des autres, on prend soin des personnes vulnérables également. Et le thème des migrations, des personnes migrantes, des personnes immigrantes, c'est-à-dire des personnes qui s'installent ici et qui sont nées ailleurs, est apparu sur notre radar, si on veut, d'un peu tout le monde, comme une question pressante dans la société québécoise actuelle. Puis c'est donc à partir de cette rencontre-là, au mois d'août, qu'au cours de l'année pastorale, on a creusé cette question-là, voir quel angle était déterminant. Et puis ce qu'on a compris, c'est l'importance que revêt le fait d'avoir un travail digne, un travail stable, pour permettre une intégration des personnes migrantes. Et donc c'est ce thème-là qu'on a choisi pour le message du 1er mai 2025. Donc, on travaille toujours tout au long de l'année en prévision du 1er mai.
On va revenir tout à l'heure sur le contenu même du message du 1er mai 2025. Oui. Simon Labrecq, quelle est la place de la parole de Dieu dans le message du 1er mai?
Je dirais qu'elle est centrale, à la fois au sens très littéral du terme, c'est-à-dire qu'on adopte souvent dans nos messages le format « voir, juger, agir ». Et puis dans la section « juger » ou la section « analyser », la parole de Dieu est au cœur de notre analyse. Donc c'est ce qui inspire, c'est certain, notre approche, mais c'est aussi ce qu'on veut remettre de l'avant. Et puis souvent, dans les différents messages, on a un titre ou un sous-titre qui est tiré soit de l'Ancien Testament ou des Évangiles pour interpeller les chrétiens et les chrétiennes. Puis c'est une façon pour nous également de faire découvrir les dimensions sociales de la parole de Dieu.
Oui, dans votre message justement de l'an dernier, vous aviez un bel exemple, « Donnez-leur vous-même à manger », qui est une citation de l'Évangile, et vous avez abordé toute la question du droit à une alimentation saine et à un prix abordable. C'était un lien extrêmement intéressant que vous avez fait l'an dernier dans le message du 1er mai.
Oui, exactement. On a utilisé ce titre-là qui réfère donc à ce qu'on appelle l'épisode de la multiplication des pains dans les évangiles, et pour montrer que ce que Jésus dit en fait dans cet épisode-là, c'est les ressources sont déjà disponibles, mais il faut apprendre à les redistribuer d'une façon qui soit plus juste. Et puis c'est le message qu'on voulait mettre de l'avant en lien avec la crise de l'inflation, des prix des aliments, mais aussi en lien avec la difficulté qu'ont les banques alimentaires, par exemple, à répondre aux besoins et aux demandes qui sont de plus en plus nombreuses.
Simon Labrecq, à qui s'adresse ce message du 1er mai?
C'est toujours une question importante pour nous et les réponses varient. C'est-à-dire qu'on essaie de s'adresser aux plus grand nombre possible, mais en même temps, on s'adresse directement aux chrétiennes et aux chrétiens qui ont déjà un intérêt, si on veut, pour l'action sociale. Donc, on essaie d'avoir des messages qui sont bien documentés, bien argumentés, en visant ces gens-là déjà engagés, mais on s'adresse aussi de façon plus générale au public qui se questionne sur des enjeux sociaux et qui voit pas nécessairement la pertinence d'une perspective de foi sur ces enjeux-là. Et on croit qu'en présentant ces messages-là, on peut sensibiliser ces personnes-là à la fois aux enjeux sociaux et à la perspective de foi qui est la nôtre et qui est enracinée donc dans la parole de Dieu.
Simon Labrec, comment vous rendez accessible et vous diffusez ce message du 1er mai?
Oui, donc le message est disponible sur le site de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, évêquescatholiques.québec. Il est disponible gratuitement sous en format PDF. On le rend disponible en français et en anglais dans ce qu'on appelle une version longue, c'est-à-dire une version d'environ 5 à 6 pages chaque année qui contient des notes, des références. Et on propose aussi chaque année soit un communiqué ou une version courte qui reprend l'essentiel du propos et qui peut être diffusé soit sur les sites web des diocèses, des paroisses, peut-être même dans un semainier paroissial. Et on le diffuse toujours à l'avance, c'est-à-dire au début du mois d'avril, pour qu'il soit disponible dans les milieux à travers le Québec au 1er mai. Et on encourage aussi les gens à consulter le message, à le lire, à l'étudier, à en parler à plusieurs tout au long du mois de mai et même tout au long de l'année.
C'est un peu ma question. Donc, même si ce message, bien sûr, vous pensez en fonction de la fête des travailleuses et des travailleurs, de Saint-Joseph travailleur aussi, le 1er mai, il est quand même pertinent, même plus qu'une année, vous
diriez? Oui, tout à fait. Donc, sur le site de l'Assemblée des évêques, on a une section là qui rassemble les messages du 1er mai depuis 1995, et puis c'est une très bonne façon de s'initier à l'enseignement social de l'Église aussi, d'aller consulter ces messages-là sur un thème qui nous intéresse, par exemple la question de l'environnement, la question de la souveraineté alimentaire qui refait surface ces temps-ci. Il y a un message de 2015, par exemple, qui s'appelle « L'être humain au cœur de la souveraineté alimentaire », qu'on retrouve, qui est gratuit, qui est même traduit en espagnol, celui-là, pour rejoindre les travailleurs migrants agricoles d'origine latine américaine, et on peut donc l'étudier, le lire en groupe, l'analyser. On peut le faire seul également, mais on encourage donc à avoir des discussions dans votre milieu, dans votre paroisse, dans votre communauté sur ces messages-là.
Alors Simon Labrec, dans quelques instants, nous allons parler du message du 1er mai 2025, migration, droit au travail et intégration. Restez avec nous, nous sommes là dans quelques instants. À question d'aujourd'hui, notre invité Simon Labrec, adjoint au secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et aussi secrétaire du Conseil Église et Société, qui nous partage ce message du 1er mai sur le thème migration, droit au travail et intégration. Donc, cette préoccupation, cet angle-là que vous avez développé cette année, Simon Labrec, vient d'une écoute de ce qui s'est passé dans une de vos rencontres au cours des derniers mois, et vous avez décidé donc de parler de ces enjeux de migration qui sont bien sûr au cœur des médias actuellement, de la préoccupation de plusieurs, certains qui disent que par rapport à l'accueil des migrants, on en fait pas assez, d'autres, on en fait trop. Il y a beaucoup de questions, et vous avez osé donc parler de ce thème-là, mais vous commencez votre lettre en parlant de Saint-Joseph travailleur.
Oui, tout à fait. Donc, le message du 1er mai est également à l'occasion de la fête de Saint-Joseph travailleur. Et puis, donc, en se penchant sur l'évangile selon Saint-Matthieu, on constate assez rapidement que Saint-Joseph est un migrant. Il a donc amené sa famille en Égypte pour la protéger, donc son fils et son épouse. Il a donc fui vers l'Égypte, et puis il est également revenu, mais dans une région autre que celle qu'il avait quittée, parce qu'il y avait toujours une menace là qui pesait sur lui.
Alors, on a souvent mentionné cet épisode comme l'exil de l'enfant Jésus ou de la Sainte Famille, mais on n'avait pas réalisé à ce moment-là que Joseph, avec Marie et l'enfant Jésus, avait passé 2 ans en Égypte. Donc, on a oublié cette dimension de migration, je pense.
Oui, exactement. Puis qui rappelle aussi donc l'exode du peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Et on utilise cet épisode-là comme entrée en matière, si on veut, dans notre message du 1er mai. Et en sous-titre, on a choisi une citation de l'Exode qui est très, très interpellante, qui est la suivante. « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. » Donc, c'est un commandement que Moïse reçoit, qui fait référence à l'Exode du peuple hébreu en Égypte, mais qui préfigure aussi donc l'exil de la Sainte Famille en Égypte également. Et puis on a choisi ce sous-titre-là, si on veut, parce qu'on y voit aussi ce qu'on appelle parfois la règle d'or, qu'on considère comme étant commune aux différentes religions dans le monde, là, l'idée de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous soit fait. Puis on utilise cette perspective-là pour dire en fait que la perception méfiante des personnes migrantes devrait faire place à une préoccupation sincère pour leur dignité, pour la dignité de chaque personne humaine, et que le type d'hospitalité qu'on devrait offrir, c'est celui dont on souhaiterait nous-mêmes bénéficier si on avait à migrer à notre tour ailleurs.
C'est extrêmement important ce que vous venez de dire, parce que ce texte de l'Exode, vous l'actualisez dans le message du 1er mai, effectivement. On oublie aussi peut-être souvent que pour plusieurs de ces, et parlons particulièrement des travailleurs migrants ou de ceux qui demandent l'asile, qui eux-mêmes sont des gens de foi.
Oui, 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 tout à fait. Il y a des gens, il y a des chrétiens donc qui viennent chez nous, beaucoup de catholiques qui viennent d'Amérique du Sud, on le sait. Il y en a qui travaillent, qui sont travailleurs migrants agricoles, donc dans les champs. Il y en a également qui viennent de pays déchirés par la guerre, par des conflits importants, là, des conflits sociaux, des conflits avec des groupes armés, et qui viennent ici à la recherche d'une protection, à la recherche d'une vie meilleure. Et ce qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est un message donc d'hospitalité, un message de bienveillance, plutôt que de voir les peuples comme étant en compétition les uns contre les autres, de voir en fait qu'on peut, si on est dans une situation plus favorable, on peut accueillir, on a même un devoir d'hospitalité, un devoir d'accueillir des gens dont la vie est menacée.
Simon Labrec, on entend souvent que plusieurs situation, crise du logement, du travail, etc. On met ça souvent sur le dos des migrants. Quel est le message du 1er mai à ce sujet?
De notre point de vue, qui est également le point de vue de plusieurs organismes communautaires qui travaillent avec les personnes migrantes, il faut faire très attention lorsqu'on propose des explications comme ça. C'est certain qu'il y a une dimension l'augmentation de la population fait en sorte, par exemple, qu'on peut avoir moins de places dans les écoles ou qu'on peut avoir moins de logements. Mais c'est que premièrement, ces crises-là existaient avant l'augmentation récente du nombre de personnes migrantes, qui a été liée aussi à la pandémie, qui a mené à l'arrêt là, de certaines migrations pendant un temps. Donc, il y a une sorte de rattrapage qui s'est fait. Donc, ces crises-là existaient avant. Et il y a toujours un danger de représenter les étrangers comme des boucs émissaires, en fait, des gens sur qui on rejette la faute, alors que c'est des personnes qui contribuent à la société au même titre que d'autres. On a vu durant la pandémie, par exemple, que le gouvernement québécois avait même parler d'anges gardiens pour parler des personnes qui étaient, par exemple, préposées aux bénéficiaires ou qui travaillaient dans le secteur de l'alimentation et qui étaient, de façon importante, là, qui étaient des personnes issues de l'immigration récente, là. Et puis, donc, on est passé, si on veut, de cette perspective des anges gardiens à cette perspective des boucs émissaires assez rapidement. Et ce qu'on dit dans le message du 1er mai, c'est attention de ne pas instrumentaliser les personnes. Donc nous sommes tous et toutes des êtres humains, nous avons la même dignité, et on ne doit pas être, on ne doit pas nous instrumentaliser, qui que ce soit, au profit d'un projet politique ou économique.
Et vous parlez aussi de cette préoccupation qu'ont beaucoup de gens de la capacité d'intégration. Sur ça, que dit le message du 1er mai?
Oui, donc il y a un enseignement de l'Église, donc un enseignement social de l'Église, qui insiste sur la dignité de la personne humaine et qui met cette dignité-là avant l'intérêt national. Donc, on cite par exemple le pape Benoît XVI là-dessus. On cite également les évêques du Canada qui ont publié en 2006 un message sur les réfugiés et qui considéraient que donc on doit mettre la sécurité des personnes avant la sécurité nationale. C'est un message audacieux. C'est un enseignement qui peut même, on dit dans le message du 1er mai, qui peut même inquiéter les gens qui croient que notre capacité d'intégration est dépassée. Mais à notre avis, ce qu'on n'a pas encore assez développé, c'est une véritable culture de la rencontre. Et puis donc, le travail peut participer à cela, donc donner un travail, s'assurer que les gens ont un travail digne, ça l'aide à leur intégration. Faire des efforts, par exemple, pour la francisation, on sait qu'il y a eu des coupures récemment là, dans ces programmes-là, mais donc investir de manière significative dans ça, ça peut aider à l'intégration également, et puis promouvoir cette culture de la rencontre, donc voir les échanges interculturels, voir la présence des autres chez nous comme une richesse, c'est quelque chose qu'on peut et qu'on devrait mettre de l'avant d'une façon plus significative, à notre avis.
Simon Labrec, justement, cette culture de la rencontre, est-ce que c'est possible de la vivre au quotidien, de s'intéresser à la caissière de tel magasin, qu'on voit qu'elle est nouvelle ou récemment arrivée, ce jeune qui travaille sur le terrain oui. du parc municipal, par exemple. Est-ce qu'il y a des clés comme ça que vous proposez aussi?
Oui, exactement. Alors, on propose plusieurs pistes d'action, des actions qui sont plus personnelles et des actions qui ont une dimension collective. Donc, sur le plan personnel, quotidien, comme vous le dites, le fait de prêter attention aux nouvelles personnes qu'on rencontre, c'est déjà une ouverture qui peut favoriser l'intégration. Et là-dessus, je pense que les chrétiennes et les chrétiens, les catholiques, dans nos paroisses, on le sait, on le voit, il y a une population migrante significative, et c'est presque obligatoire d'aller accueillir ces gens-là, d'aller leur serrer la main. Donc, au moment de l'échange de la paix, par exemple, on peut faire un effort particulier pour se rapprocher de ces gens-là après la célébration du dimanche, par exemple, discuter avec elles, avec eux, voir comment se passe leur intégration, comment se passe leur apprentissage du français, s'ils en ont besoin, est-ce qu'ils ont un emploi, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés particulières. Et puis, ça peut être, par exemple, si on connaît les personnes depuis quelque temps, ben on peut leur proposer d'être une référence, par exemple, pour un futur employeur qui voudrait les engager. Donc, de se rapprocher comme ça, sur un plan interpersonnel, nos paroisses offrent un milieu, je dirais, très propice à ça. Donc, c'est des occasions à saisir.
Vous parlez aussi d'organisation. Donc, le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, le RATMAC, le CATI, qui est le Comité d'action contre la traite interne et internationale. Donc, ce sont des chrétiens qui sont engagés, pour le CATI, des communautés religieuses aussi. Mais vous parlez aussi quelque chose qui est peut-être moins connu, le Carrefour québécois d'hospitalité presbytérale, qui existe oui. depuis 2019. Qu'est-ce que c'est?
Oui, donc c'est une semaine de formation qui dure, une semaine qui est organisée par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et qui s'adresse à la fois aux prêtres venant d'ailleurs, donc qui sont au Québec depuis moins de 5 ans, et aux personnes qui les accueillent dans les différents diocèses, dans les paroisses. Il y a donc une présentation de comment ça se déroule, l'arrivée d'un prêtre qui vient d'ailleurs, avec des exemples, des gens qui témoignent aussi de leur propre expérience. Et puis, Il y a également une forme de présentation de la culture québécoise, donc pour ces prêtres-là qui sont nouveaux, pour les aider à mieux comprendre dans quelle société ils arrivent. La société québécoise a un rapport particulier, par exemple, à la religion, on le sait, depuis la Révolution tranquille. Et c'est pas toujours évident pour les gens qui viennent d'Afrique, par exemple, de comprendre quelle est cette relation-là des Québécoises, des Québécois à l'Église.
Simon Labrec, il nous reste une minute. Comment le parcours Amos peut aider à mieux saisir, entre autres, ce message du 1er mai, mais d'autres messages aussi. Donc, le parcours Amos.
Oui, donc le parcours Amos est un outil de formation des adultes qu'on a lancé avec l'Office de catéchèse du Québec, le Centre Justice et Foi également, qui offre une initiation pour les adultes aux enseignements sociaux de l'Église. Ça dure entre 4 et 10 rencontres et c'est basé sur des échanges entre adultes sur comment on voit les enjeux sociaux et comment on peut les approcher dans une perspective chrétienne à partir de la méthode voir, analyser, agir.
Simon Labrec, adjoint au secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, merci beaucoup. Donc, on rappelle que le message du 1er mai cette année et les autres précédents sont disponibles sur le site web de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci de votre présence. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.